La Grande Table suit encore et toujours la voie des festivals d'été. À 13h30, nous ferons le portrait de l'écrivaine et philosophe Tanella Boni, invitée du Banquet du Livre d'été à La Grasse jusqu'au 9 août prochain. Mais avant cela, c'est un voyage temporel et spirituel que je vous propose. Le musée Guimet met à l'affiche Bouddha, ses 547 vies et son entrée au Nirvana. Bouddha, figure longtemps en iconique, progressivement représentée et déclinée au gré de l'histoire des arts des différents pays dans lesquels son enseignement s'est diffusé. Futur Bouddha sous les traits d'un prince, Bouddha ascète à la recherche de l'éveil, Bouddha assis s'adonnant à la méditation, autant de scènes dont témoignent statues, enluminures et détrempes sur toile du 1er siècle à nos jours. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie du commissaire de l'exposition Thierry Zéphir, de la professeure à la Northern University Catherine Raymond et d'Antoine Gournay, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors cette grande exposition sur Bouddha, c'est l'une des premières, je crois, à avoir vraiment choisi la figure seule de Bouddha, si je ne me trompe. Thierry Zéphir.
Oui, effectivement, pour ce qui est en tout cas de la France, c'est la première fois qu'on consacre une exposition au Bouddha historique, avec évidemment le désir de raconter un petit peu qui était ce personnage, autant qu'on puisse le savoir, et à la lumière des œuvres de nos collections, très riches, au musée Guimet. Il y a eu des expositions thématiques sur des pays où le bouddhisme est évidemment la religion dominante, le Bhoutan il y a quelques années, et autres, mais c'est vraiment la première fois que de manière transversale, on aborde le personnage dans ses tenants et ses aboutissants pour évidemment un public assez large. On ne fait pas une exposition élitiste, on ne remet pas en cause des données très scientifiques. On expose de la manière la plus simple et lisible possible, en tout cas on l'espère, le personnage Bouddha historique.
Alors même si il nous faut quand même quelques repères pour suivre l'exposition, repères qui sont donnés dès le début, et le musée Guimet a une histoire très ancienne lié à Bouddha, puisque c'est même l'identité même de son musée hein, et de son fondateur, Émile Guimet, qui lui-même avait fait ce grand voyage en Asie à la fin du 19e siècle, Thierry Zéphir.
En effet, le musée Guimet, en fait, est une création d'Émile Guimet, qui était passionné par les religions, toutes les religions, pas seulement celles de l'Asie et pas seulement le bouddhisme. Et il se trouve qu'en tant que fils d'industriel lyonnais, il avait à sa disposition des moyens qui lui ont permis de voyager beaucoup sur les rives de la Méditerranée et puis d'entreprendre en 1876 un très grand voyage autour du monde. Son point de chute le plus pérenne pendant ce voyage, ça a été le Japon. Et là, il a souhaité acquérir, réunir tout un ensemble d'œuvres qui lui permettraient, de retour en France, d'expliquer ce que sont les iconographies religieuses du bouddhisme, pas seulement le Bouddha d'ailleurs, mais toutes les iconographies religieuses de tous les bouddhismes, parce qu'il n'y a pas un seul bouddhisme, mais en fait il y en a plusieurs qui se sont succédés dans le temps, même s'ils se fondent tous exactement sur les mêmes principes. Et c'est donc de la sorte que le musée Guimet est né. Les collections ensuite se sont enrichies progressivement, et de musée d'histoire des religions, qu'il était au départ, le musée Guimet est devenu aujourd'hui un musée d'art asiatique.
Alors effectivement, c'est ce qu'on voit en arrivant, Carole Raymond, dans l'exposition, c'est effectivement ces repères géographiques et chronologiques qui nous permettent de prendre quelques repères artistiques aussi sur ce qui se passe dans l'histoire de Bouddha, qui est totalement liée, l'exposition est totalement liée aussi à l'expansion du bouddhisme, qui est d'abord une expansion géographique en Asie.
Oui, tout à fait. Pour l'histoire du bouddhisme, je pense que la France a commencé très tôt avec Alfred Fouché à établir un certain nombre d'interprétations possibles à partir de l'Afghanistan, le Pakistan et comprendre les liens avec l'Europe, l'ancienne Europe. Et donc son cheminement à travers l'Asie, je pense que la carte qui est à l'entrée de l'exposition est très très claire quant à la diffusion de cette doctrine à travers l'Asie dès le 5e siècle de son émergence dans le nord de l'Inde, plus exactement aux limites du Népal et de l'Inde. et puis ensuite dans toute l'Asie avant de venir de nos jours en Europe.
Alors tout ce trajet a des conséquences bien sûr sur la manière dont la figure de Bouddha est représentée dans l'art, Antoine Gournay, et dans la manière dont il n'est d'abord pas représenté, puisqu'on disait figure aniconique longtemps.
Effectivement, puisque pendant quasiment 5 siècles, pendant les premiers siècles de son existence, le bouddhisme n'a pas utilisé de représentation figurée du personnage fondateur de la doctrine, c'est-à-dire du Bouddha. On préférait ce qu'on appelle de manière un petit peu étrange des représentations aniconiques, c'est-à-dire qu'on symbolisait en quelque sorte la présence du maître.
Alors,
disparu,
soit par le vide
par le vide, par exemple la chaise vide, ou le coussin vide, comme ça se fait aujourd'hui encore dans des temples zen au Japon, ou bien par des objets symboliques.
L'arbre
de la Bodhi, l'arbre sous lequel le Bouddha est censé avoir atteint l'éveil. Ce qui s'est développé aussi très tôt, c'est le culte des reliques du personnage, reliques qui circulaient, mais aussi les reliques corporelles du Bouddha qui étaient enfouies au sein de ce qu'on appelle les stupas, ces monuments funéraires et donc qui servaient à commémorer le maître. Et ça n'est donc qu'au bout de 5 siècles à peu près, et probablement sous l'influence de pratiques de dévotion religieuse qui venaient du Moyen-Orient et peut-être du monde hellénistique, qu'on a commencé à réaliser des effigies de ce personnage qui donc avait vécu quelques 500 ans plus tôt.
Alors, réaliser des effigies, mais Thierry Zéphyr, pas de n'importe quelle manière. Il y a quand même un certain nombre de caractéristiques physiques majeures et 80 mineures qu'il faut respecter pour représenter Bouddha.
En principe, oui. Mais ça, c'est le lot de toutes les iconographies religieuses de l'Asie. En fait, nous sommes dans un monde où tout est très codifié et où des textes normatifs, parfois même des traités assez complexes, définissent comment doit être représentée telle ou telle figure religieuse. C'est valable pour le bouddhisme, c'est valable pour les grandes religions du monde indien, l'hindouisme et autres. Et ces critères, en fait, qui caractérisent une image de telle ou telle divinité ou du Bouddha sont listés effectivement de manière très précise.
On va donner quelques petits exemples. Il a 40 dents.
Effectivement. Pour le Bouddha, si un artiste, je ne vois pas tellement lequel parce que ce serait vraiment difficile, essayait de transcrire de manière plastique en sculpture ou en peinture les 32 marques distinctives premières et les 80 mineures, il aurait beaucoup de mal parce que effectivement le Bouddha est censé avoir eu 40 dents. Il est censé avoir eu, avoir des talons saillants. Alors ça, c'est représenté en sculpture, des doigts palmés.
La loupe de poils entre les sourcils.
Une loupe de poils entre les sourcils. Surtout une protubérance crânienne. Et ça, c'est ce qui est vraiment un des éléments de reconnaissance, on va dire, des représentations du Bouddha les plus marquants. Et parmi donc tous ces signes, quelques-uns ont été retenus par les artistes au gré des écoles d'art dans les différents pays d'Asie. Et dans le fond, c'est d'ailleurs la pièce d'appel de l'exposition. Le domaine géographique dans lequel le Bouddha a été le plus pleinement réalisé sous sa forme un peu particulière, c'est la Thaïlande, l'actuelle Thaïlande. Et c'est pour moi, en tout cas, dans les arts des premiers royaumes thaï, notamment l'art de Sukhothaï, qui est un grand, grand royaume historique de la Thaïlande actuelle, que l'on trouve une représentation plastique du Bouddha dans son corps, dans son apparence physique, dans ses particularités anatomiques, très proche de ce que décrivent les textes.
Catherine Raymond, ces caractéristiques physiques, est-ce qu'elles étaient justement prévues pour qu'on ne le représente pas, ou est-ce qu'elles étaient prévues pour que justement on garde cette dimension qui soit à la fois humaine et en même temps un peu différente de l'apparence humaine?
Le Bouddha n'est pas vu par les dévots comme étant un personnage humain.
Justement, est-ce que c'est pour garder ce caractère non humain et sacré que l'on a mis en place ces caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques naturelles, possibles ?
En Asie du Sud-Est, ça a beaucoup évolué. En Asie en général, ça a énormément évolué au cours des siècles et des millénaires. Donc, la représentation elle-même avait des formes gigantesques parfois, qui est soulignée dans l'exposition à travers certaines pièces. Et la taille était aussi liée au support royal qui permettait de ces grandes créations par les artistes, qui bien sûr étaient sous l'égide des rois.
Alors, cette exposition qui reprend alors les vies de Bouddha, mais quand même s'intéresse particulièrement au Bouddha historique, il y a justement une visée quand même pédagogique, en tout cas didactique, pour le visiteur qui ne serait pas spécialiste du bouddhisme. Et on retrace les grands épisodes du Bouddha historique. Alors peut-être qu'on va les reprendre, ces étapes-là. Justement, est-ce qu'on peut reprendre ces scènes qui sont régulièrement évoquées, Antoine Gournay, par l'histoire de l'art?
Oui, alors sans reprendre toute la geste donc, qui a été élaborée et codifiée en quelque sorte au cours des siècles, hein, la façon dont on représente traditionnellement cette vie du Bouddha Sakyamuni, c'est une reconstruction qui est aussi, il faut en tenir compte, une manière de présenter aux disciples du Bouddha le modèle qu'ils devront suivre.
Alors peut-être et une explication sur ce qu'est justement le Siddhartha Gautama, la dernière vie du Bouddha lorsqu'il est apparu sous les traits d'un prince.
Voilà, donc celui qu'on connaît comme le Bouddha historique, hein, a un nom historique qui est Siddhartha, c'est son nom de prince, et il appartenait à un clan aristocratique du nord de l'Inde, des Gautama. Mais on connaît aussi ce personnage sous toutes sortes d'autres noms. Celui que nous utilisons le plus, qui est le Bouddha, est simplement une épithète qui désigne celui qui a atteint l'éveil. Et donc, ça n'est absolument pas un nom personnel.
Donc, après ces 547 vies, il est apparu sous les traits d'un prince.
Selon la tradition, oui, avant d'atteindre cet éveil, au cours de cette 548e existence terrestre, on lui connaît, enfin la tradition relate un certain nombre d'épisodes qui se seraient déroulés au cours de 547 vies précédentes. Mais parmi ces 547 vies, certaines sont plus connues que d'autres et elles font l'objet en art d'abord dans la littérature, puis ensuite en art de représentation. Et c'est ce qu'on appelle les Jataka. Donc ce sont toutes ces vies antérieures du Bouddha pendant lesquelles, donc ce sont des réincarnations successives pendant lesquelles cet être s'est progressivement préparé à atteindre l'état ultime, celui de Bouddha.
Alors ça s'est retranscrit dans l'art Thierry Zéphyr par des conditions, alors il s'est réincarné dans des conditions animales, d'autres fois humaines, d'ailleurs homme ou femme, dieu, anti-dieu, ça a fait l'objet à la fois de représentations sous forme statuaire, mais aussi sous forme d'enluminures que l'on peut voir, ou des formes manuscrites.
Oui, tout support et toute forme artistique, en fait, a pu transcrire la vie du Bouddha, sa vie ultime comme les vies antérieures. Et dans la manière, disons, de concevoir le temps, qui est celui de l'Asie d'une manière générale, de l'Inde tout spécifiquement, il y a des phénomènes de cycliques. C'est-à-dire que chez nous, on a un temps linéaire, bon, une naissance, un développement et puis une mort, et au-delà, plus rien. Dans le monde asiatique, le temps est en cyclique, on a des naissances, des développements, des morts successives. Et le but pour bien des religions, et notamment pour le bouddhisme, c'est que chaque âme, de vie en vie, cultive des qualités particulières, intellectuelles, morales, spirituelles, telles qu'elles permettent à l'âme en question de s'élever progressivement dans une hiérarchie d'êtres, pour finalement parvenir à ce qu'on appelle le salut. Alors chez nous,
même si parfois les choses se payent d'une existence à l'autre.
Bien sûr, c'est la loi du karma, c'est-à-dire tout ce que l'on fait théoriquement, consciemment ou non, pèse sur la destinée qui sera la nôtre dans une vie à venir. Et donc on a beau être, par exemple, dans une vie présente le meilleur des êtres, si dans des vies antérieures on s'est montré très 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 mauvais, il n'est pas dit que dans la naissance à venir, la naissance future, on franchisse une étape vers le haut. On peut fort bien régresser dans cette loi du karma, et tout l'enseignement qui est celui de ces vies antérieures du Bouddha, ça a été précisément de montrer comment cet être particulier a progressé de vie en vie, quelquefois trébuchant, très rarement, pour devenir effectivement l'éveillé, pour devenir ce fondateur d'une des très très grandes religions du monde.
Catherine Raymond, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces expériences de vie qu'a pu expérimenter Bouddha, ou dont il a pu être parfois témoin, le Bouddha homme ou femme, le Bouddha animal, le Bouddha démon?
Parmi les plus connus des Jataka, ou vies antérieures, en Asie du Sud-Est particulièrement, mais dans toute l'Asie en général, les 10 dernières ont plutôt visé la personne humaine, en montrant les 10 vertus possibles pour progresser vers l'éveil. Et dans l'exposition, nous voyons la représentation sur les enluminures, en sculpture et en peinture des différentes vies antérieures, dont le don particulier avec le Vesantara, qui est très très connu, mais qui commence au début avec le prince d'Ipankara. Il y a des très très belles sculptures où l'on voit ce don extrême. Alors quand il est effectivement représenté sous forme animale, je ne pense pas que dans l'exposition on ait un développement sur ce thème-là, mais effectivement on a tout un tas d'animaux possibles dans la représentation qui était assez familier il y a plusieurs, il y a une 1000 ans, en tous les cas en Birmanie, à Pagan, on voit ces représentations animalières qui précèdent.
Thierry Zéphir, il y a à notre accueil, vous parliez de la conception cyclique asiatique du temps. Il y a ce grand rouleau tibétain à l'accueil qui représente justement ces vies antérieures avant de rentrer vraiment dans l'histoire du Bouddha historique.
Oui, en fait, étant donné que nous souhaitions nous adresser au plus large public, donc vraiment un public qui, par définition, ne connaît pas la vie du Bouddha, il y a effectivement dans l'espace d'introduction une grande peinture tibétaine du XVIIe siècle, une très belle œuvre qui regroupe tout un ensemble de scènes, je pense que c'est à celle-ci que vous faites allusion, qui, au premier regard, paraît totalement incompréhensible et lisible parce qu'il y a des centaines de personnages qui s'enchevêtrent les uns aux autres, s'interpénètrent. Et concrètement, lorsqu'on essaye d'analyser l'œuvre, on se rend compte que de place en place, il y a des épisodes spécifiques de la vie du Bouddha. Donc c'est effectivement de la sorte, en prenant, si vous voulez, enfin il est nécessaire d'une certaine manière d'avoir une préconnaissance de ce qu'est cette vie du Bouddha pour comprendre l'œuvre en question. Mais étant donné que nous voulions être compréhensibles pour un public ignorant, nous avons conçu une espèce de support vidéo qui permet d'extraire de cette peinture 21 scènes absolument majeures, 21 grands temps dans la vie du Bouddha, qui permet dans le fond aux visiteurs très très pressés de se satisfaire de cette œuvre pour savoir ce qu'a été cette vie du Bouddha, et aux visiteurs qui souhaitent aller un peu plus loin, de prendre un premier contact avec des événements, en grande partie mythologiques bien sûr, parce que dans le fond de la vie du Bouddha historique...
Elle est faite de légendes.
On sait qu'il est né, on sait qu'il a vécu et on sait qu'il est mort. À peu près dans quel milieu, à peu près à quelle époque, mais toute cette vie, et c'est le sous-titre même de l'exposition qui le dit, c'est une légende. Elle a été, c'est la géographie, c'est le désir d'embellir des événements qui ont pu parfois se baser sur des faits réels, mais toute la littérature bouddhique, dans le fond, n'est qu'une exaltation du personnage pour mieux en montrer le caractère exceptionnel.
Alors, du point de vue des représentations, Antoine Gournet, est artistique, cette légende dorée, si on dit doré, ce n'est pas simplement parce qu'elle est exaltée, c'est aussi parce qu'on y trouve beaucoup de représentations en or, ornées, notamment en ce qui concerne un certain nombre de sculptures. Alors est-ce que justement cette ornementation, elle est liée au culte lui-même, à la religion elle-même, ou est-ce qu'elle est liée à la culture artistique des pays dans lesquels le bouddhisme s'est implanté ?
Alors ce qui est tout à fait remarquable dans l'exposition, c'est qu'on y trouve à la fois donc des images qui tiennent à la dimension didactique, la dimension d'enseignement du bouddhisme, puisque c'est d'abord une doctrine qui doit se transmettre. Et donc, on a, dans les différents pays où s'est installé et développé le bouddhisme, inventé toutes sortes d'images, donc à partir des codes qui avaient été définis au départ, on a inventé, multiplié des images sur toutes sortes de supports, avec toutes sortes de techniques, qui servent donc aux différents disciples et en fonction de leur niveau aussi d'accès à cette doctrine, de prendre conscience des éléments principaux de la doctrine.
Alors et avec puis, une petite parenthèse, vous dites codification. La codification, elle ne concerne pas simplement les caractéristiques physiques, mais elle concerne aussi les tenues vestimentaires du Bouddha, les étoffes, mais aussi les postures.
Tout à fait.
Et les
alors,
gestes.
Alors on représente, le Bouddha lui-même peut se représenter dans différentes postures, ce qu'on appelle asana en sanskrit. Ces postures, la plus célèbre, c'est la posture assise qui représente le Bouddha dans la posture dite du lotus, la posture de la méditation, mais on représente aussi le Bouddha debout ou en marche ou également couché. Et puis, le vêtement que porte le personnage est très important, puisque une des manières de reconnaître et d'identifier pour le disciple le personnage, c'est ce vêtement monastique qui a lui-même été codifié par le Bouddha au cours de son enseignement, au cours duquel il expliquait à ses disciples qu'il ne fallait se vêtir que de vieux chiffons et de vêtements récupérés qui avaient traîné dans la poussière. Et c'est une des voies de l'ascèse.
Et entendu. En même temps, il nous est dit dans l'exposition que la confection de ces tenues-là fait partie aussi des rituels et c'est une activité sacrée. Je vous propose d'écouter Mathieu Ricard en parler sur France Inter en 2018, de parler de la manière dont justement tout peut être lié à la liturgie.
Le milieu dans lequel je vis, c'est celui du bouddhisme tibétain, l'art sacré, l'art traditionnel est un élément de transformation sur le chemin. Alors, on aime, tous les êtres humains aiment danser, chanter, courir, peindre, dessiner, et on essaie d'intégrer ça à un chemin spirituel. Donc, on dessinera des objets de méditation, certaines représentations de la compassion, de la connaissance. Les danses sacrées seront symboliques. L'art est aussi symbolique. Une déité qui a deux bras, c'est la sagesse et la compassion. Dans la photographie, ce que j'essaie de faire, c'est de donner confiance dans la nature humaine, de voir que la beauté intérieure des êtres humains, l'émerveillement devant la nature pour la protéger, donc de montrer en fait plutôt la bonté originelle que le péché originel, je peux me permettre, et donc encore une fois de redonner confiance.
Antoine Gournay, on voit que justement la dimension artistique, elle est complètement intégrée aussi à la pratique, en tout cas elle peut être.
Oui, et la pratique est effectivement extrêmement importante. Il faut se rappeler qu'une bonne partie de cet art bouddhique, ce que nous regardons et considérons comme un art qu'on admire aujourd'hui dans les musées, est lié à des contextes rituels très précis. Et ce que vient d'expliquer Mathieu Ricard le prouve. La confection même du vêtement monacal fait partie de ces multiples activités ritualisées qui font même la vie du moine. Et donc il ne s'agit pas simplement de se renseigner ou d'apprendre comment a vécu le Bouddha, il s'agit de mettre en pratique soi-même.
Catherine Raymond, ce qui est un peu vertigineux quand on fait le tour de cette exposition, c'est effectivement la période historique sur laquelle elle s'étend et le fait de constater que Bouddha est un motif artistique qui existe depuis le 1er siècle, puisqu'il n'était pas représenté au départ, jusqu'à nos jours. Et on voit toutes ces œuvres justement de toutes les époques différentes et de toutes les influences culturelles différentes.
Et il continue. Nous avons un très bel exemple japonais à évoluer, à faire partie de la pop culture.
Alors, faire partie de la pop culture, ça fait partie aussi de l'histoire du bouddhisme. C'est parce que le bouddhisme, il a trouvé aussi des adeptes en Occident depuis le 19e siècle.
Depuis le 19e siècle, effectivement, et particulièrement au 20e, avec les mouvements hippies et avec des gens comme Kerouac, comme Watts, etc., qui eux-mêmes ont associé à cette pop culture une image zen, entre parenthèses.
Vous mettez des guillemets partout. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une petite phase, justement, de l'exposition où on explique la question des interprétations, peut-être des mauvaises interprétations de certains préceptes bouddhistes? Est-ce que, justement, c'est à ça que vous faites allusion?
Vers une simplification qui, parfois, pour nous, spécialistes, est parfois détonnant, et pour ceux qui pratiquent cette religion, est parfois très gênant.
Pourquoi gênant?
Parce que, effectivement, moi, j'irais carrément jusqu'au Bouddha Bar, par exemple, où, effectivement, les pratiquants du bouddhisme y voient un détournement dangereux et qui est contraire à la doctrine professée il y a plus de 2500 ans.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose dans les textes, Thierry Zéphir, qui peut expliquer cet engouement aussi au XXe siècle pour le bouddhisme? C'est la souplesse du bouddhisme en lui-même, qui permet des formes de syncrétisme, en tout cas, d'une adaptation aux déités locales.
Alors, la souplesse, bon, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais le bouddhisme, c'est sûr, résonne de manière très positive aujourd'hui dans un monde qui n'est pas un monde de sérénité, de paix et de simplicité. Et ce que propose en fait le Bouddha, à la fois par la manière dont il a vécu et ce que l'on doit en retenir, c'est précisément ce qu'il a appelé lui-même la voie du milieu. Donc, ni trop peu de confort, ni une trop grande rudesse vis-à-vis de l'existence.
Ça mérite un peu plus d'explications pour nous autres ignorants et non spécialistes, Thierry Zéphyr, pour reprendre les étapes du Bouddha historique, après être né de la reine Maya et d'un éléphant blanc, il va y avoir cette phase des rencontres.
Là, je vous corrige, il n'est pas né de la reine et d'un éléphant. Il est dans l'imagerie religieuse, il est descendu dans le sein de sa mère sous l'aspect d'un éléphant blanc.
D'un éléphant,
c'est ainsi que les scènes sont décrites et qu'elles sont montrées d'ailleurs dans les arts. Mais enfin, il a eu un père et une mère, comme tout le monde.
Et il est devenu prince.
Il était né
jusqu'aux quatre rencontres.
Dans une famille princière, il était destiné à devenir prince. Et puis, il avait cette curiosité personnelle, innée, qui l'a poussé effectivement un jour à aller de par le monde, voir un petit peu ce qui s'y passait. Car de fait, à sa naissance, alors ça, ce sont toutes les petites légendes ou toutes les petites historiettes qui se sont agrégées à l'histoire même du Bouddha, et il est dit que peu de temps, donc après sa venue au monde, un devin est venu au palais qui a observé sur le corps de l'enfant ces fameuses marques caractéristiques et qui a prédit à ses parents qu'il deviendrait soit un grand roi, donc un souverain universel, soit un grand religieux. Et évidemment, pour un monarque du nord de l'Inde, et d'un petit royaume d'ailleurs, le destin privilégié, c'était celui du temporel. Il voulait pour son fils un destin glorieux de souverain. Il l'a donc tenu reclus dans son palais, et poussé par une curiosité qui lui était propre, ce jeune homme s'est un jour abstrait de ce palais pour nuitamment aller voir un petit peu ce qu'il y avait autour. Il a fait 3 rencontres principales, plus une quatrième, la rencontre avec la mort, avec la vieillesse, avec la souffrance, et avec un religieux de son temps, qui, dans lequel il a vu une espèce de sérénité absolue, et c'est ce qui a déterminé en fait son choix de quitter ce palais et ce destin princier qui aurait dû être le sien pour se livrer à une quête, quête qui l'a conduit à l'éveil.
On prend la suite, Catherine Raymond, il va y avoir des représentations dans cette exposition de la phase qui en suit, à savoir la phase de l'éveil qui se manifeste par des combats intérieurs.
La fameuse bataille avec Mara, avec le doute, avec ces puissances extérieures et qui sont représentées par, selon les écoles, par des monstres, par des humains, parfois par des étrangers. Dans la peinture plus récente en Asie du Sud-Est, on voit les étrangers représentés parmi l'armée de Mara qui sera vaincue grâce à l'attitude du Bouddha de demander à la Terre, la divinité Terre, de témoigner de toutes les actions passées dans ses 547 vies. Et là, on voit une très belle représentation de la divinité Terre qui va essorer ses cheveux et qui va chasser au loin l'armée de Mara par l'eau qui va couler de cette coiffure, avec cette très belle représentation de cette vie. Et parfois, effectivement, c'est associé aussi au tremblement de terre, et le tsunami, etc. C'est quelque chose qui, en fait, résonne en Asie énormément, de nos jours encore, donc qui fait écho à cette très belle représentation contemporaine suite au tsunami au Japon. Et je trouvais que c'était absolument extraordinaire de voir cette représentation contemporaine qui fait écho aux textes anciens de cette lutte contre Mara, contre les puissances du mal, pour employer un vocabulaire beaucoup plus récent. Et cette représentation est capitale puisque elle va conduire à l'éveil.
Alors Antoine Gournay, ce que l'on voit aussi, c'est des représentations d'un Bouddha, du Bouddha ascète, d'un Bouddha qui va pousser si loin l'ascétisme que il va devoir trouver sa voie du milieu.
Exactement. Ce que rapporte la tradition, c'est que pendant une longue période de plusieurs années, le futur Bouddha explore en fait différentes voies d'ascèse, y compris les plus poussées. Et puis il finit par prendre conscience, après ces tentatives qui s'avèrent infructueuses, que ce qu'on appellera par la suite la voie du milieu, c'est-à-dire celle de la concentration et de la méditation, est la seule qui peut le mener à l'éveil. Et c'est au prix donc d'une très longue période, alors il y a différentes traditions, mais de concentration, de méditation assise, que finalement il atteint cet état d'éveil. Et c'est le moment en quelque sorte décisif.
C'est 6 ans, hein, c'est ça ?
La tradition en général parle de 6 ans, oui. Et donc on rapporte que c'est à l'âge de 35 ans que le Bouddha a atteint l'éveil. Et la tradition nous dit aussi qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc les 45 années restantes de sa vie, ensuite, bascule dans une autre phase, si vous voulez, qui est celle de l'enseignement.
De l'enseignement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces différentes scènes que l'on vient rapidement de relater ? Est-ce que, selon les époques, on a plus représenté l'éveil, les rencontres, l'ascèse ?
Alors, selon les écoles, ce qu'on n'a pas dit encore, et qui est très important si on veut comprendre, si on veut pénétrer cet univers foisonnant qu'est le bouddhisme, c'est qu'il existe toutes sortes d'écoles et toutes sortes de traditions au sein de cette unité à laquelle nous donnons le nom global de bouddhisme. Et dans certaines écoles, en fonction de ce qu'elles veulent mettre en avant, ont choisi de privilégier telle ou telle représentation, tel ou tel événement de la vie du Bouddha historique.
Alors, quelques exemples peut-être, justement, dans les pièces qui sont données à voir, Thierry Zéphir, dans l'exposition, quelques exemples. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, par exemple, la représentation des aras, des disciples, elle est attribuée justement aux artistes japonais, un artiste japonais, Kazunobu, si je n'écorche pas son nom. Quels sont les exemples des pièces, justement, qui sont trouvées, qui sont inédites et que le musée a ressorti pour cette exposition ?
Alors en fait, les œuvres auxquelles vous faites effectivement allusion, si vous voulez, notre exposition, nous l'avons conçue en 3 temps. Le temps vie antérieure et vie princière de ce futur Bouddha, puis le temps après l'éveil de l'enseignement, et comme l'enseignement c'était celui du Bouddha lorsqu'il était vivant, mais par la suite c'est celui de ses disciples, eh bien nous avons souhaité faire un développement sur justement cette iconographie des disciples, ce qui fait que c'est une espèce de rupture aussi dans ce que pourrait avoir un petit peu monotone ou convenu, le fait de simplement raconter la vie du personnage. Donc effectivement, lorsqu'on en vient à parler des moines, des arhats, ils ont toutes sortes d'appellations possibles, bhikshu ou autres, nous montrons là des œuvres qui sont relativement moins connues que d'autres au sein des collections du musée Guimet, non pas parce qu'elles sont moins importantes, mais simplement parce que voilà, nos murs sont ce qu'ils sont et ne peuvent pas permettre de tout montrer. Et du coup, lorsqu'on parle enseignement bouddhique, ces figures d'arhat qui ne sont pas forcément celles qu'on attend dans une exposition sur le Bouddha deviennent très importantes parce que ce sont les vecteurs par lesquels le bouddhisme va ensuite se diffuser.
Donc ils sont liés à l'enseignement qui est une partie entière sur laquelle se clôt l'exposition.
Voilà. Et d'une certaine manière, nous avons pu ressortir justement, vous y allusiez, à ces peintures insignes, remarquables d'un peintre japonais du 19e siècle.
Vous direz le nom mieux que moi.
Kano Kazunobu.
Absolument.
Et qui sont effectivement au sein des collections du musée Guimet depuis l'époque d'Émile Guimet. Émile Guimet les a acquises au Japon. À l'époque où il les a acquises, ses œuvres étaient contemporaines, c'était des œuvres modernes. Et d'ailleurs, Kazunobu, à cette époque-là, au 19e, n'était pas un peintre particulièrement révéré dans son propre pays. Il se trouve que, après avoir abondamment étudié la peinture japonaise, les spécialistes de ce domaine ont réévalué aujourd'hui l'intérêt, à la fois iconographique et esthétique, des œuvres de Kazunobu. Et le hasard a fait que, Émile Guimet ayant une espèce de préscience de ce qui était intéressant, nous disposions effectivement au sein des collections du musée de très belles peintures de cet artiste.
Alors,
et ce sont précisément des arhats.
Alors il y a des œuvres qui étaient au sein de la collection, mais il y a aussi des œuvres inédites, des œuvres de collectionneurs.
Alors quelques, alors des œuvres de collectionneurs, non. Nous avons fait appel à très peu de d'œuvres extérieures aux collections du musée. Nous avons en fait des photographies qui ont été réalisées à Borobudur. Borobudur, c'est un grand temple bouddhique de Java, où à un certain niveau du monument, 120 panneaux sculptés en relief illustrent la vie du Bouddha. Et étant donné que notre sujet, c'est la vie du Bouddha, nous avons souhaité intégrer ces photographies, parce que on n'a pas pu aller, évidemment, prendre les reliefs à Borobudur, puisqu'ils font corps avec le monument, et les mettre un petit peu en regard de pièces que nous avons aussi dans nos collections, en revanche, et qui sont des moulages. C'est vous dire à quel point la thématique, on va dire, artistique de l'exposition est diverse. Et effectivement, en tout cas, pour en revenir aux photographies, ce sont des œuvres qui appartiennent aux photographes, ce sont donc des œuvres de collection privée. Il y en a quatre qui viennent en contrepoint, d'une certaine manière, à la narration même que nous faisons de la vie du Bouddha.
Alors c'est un des défis de l'exposition, Antoine Gournet, justement, que de réussir à représenter l'enseignement, en tout cas l'enseignement qui lui-même a dû être aussi traduit dans un certain nombre de textes suite à la mort de Bouddha, en tout cas sa dernière mort à 80 ans. Il va y avoir justement la volonté de transmettre cet enseignement, et ça on en trouve des traces aussi dans l'art.
Alors, on en trouve des traces dans l'art plastique, bien entendu, et sous forme des textes, puisqu'il ne faut pas oublier que toutes ces représentations figurées dont nous parlons illustrent principalement des textes. Et puis, en dehors de ces illustrations proprement dites, il y a aussi toutes les statues, toutes les images, toutes les peintures qui ont été réalisées, donc dans un but rituel, et je pense tout particulièrement aux grandes statues de culte, aux images qui sont destinées à être vénérées directement, placées dans une position d'honneur à l'intérieur des lieux de culte, dans les temples qui sont édifiés. Et c'est ce que montre très bien l'exposition, puisque ces images, on explique très bien dans quel contexte il faut les regarder et dans quel contexte elles étaient vénérées et faisaient l'objet d'un culte.
Alors je vais vous proposer d'écouter une archive d'Alexandra David-Nel, l'exploratrice. Elle était, c'était le 2 novembre 1969, l'invitée du dimanche à la RTF.
Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses. La permanence, la souffrance et le non-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personnalité homogène qui existe dans l'individu. Ce que c'est dans nos pays, on appelle ça une arme. Et ça n'existe pas pour les bouddhistes. Une personnalité pour les bouddhistes, c'est un amalgame et une composition de différentes choses. Des idées, des sensations, etc. Alors ça, il y a un Tibétain qui me l'a défini très bien. Il a dit, ce que vous appelez en moi, c'est un parlement. À ce moment-là, dans ce parlement, il y a des membres qui viennent de différentes régions, qui sont dans différentes idées, et tantôt il y en a un qui se lève, il fait un discours, et alors les autres approuvent, ils disent, c'est bien, si nous allons faire comme cela. Et quelquefois, il y a une grande contradiction entre les membres. L'assemblée devient tumultueuse, ils se disputent, ils présentent des opinions différentes, et ça devient être aussi tumultueux qu'ils se battent entre eux, comme dans quelques parlements, ça est arrivé. Et voilà ce que c'est comme moi.
Catherine Raymond, on en revient à cette question de compréhension aussi de l'enseignement. Hein. Trois choses, la permanence, la souffrance et le non-moi.
La souffrance était particulièrement évoquée artistiquement, puisqu'elle résonnait, et elle résonne encore plus que jamais, pour chaque individu qui la confronte tous les jours, d'une certaine manière, avec l'attachement que l'on a aux choses matérielles. Et donc, l'exposition relate à travers certaines œuvres, et particulièrement dans les peintures, la relation à dukkha, la souffrance, et la manière, avec la méditation, de pouvoir s'en détacher et de trouver, avec l'orientation vers le nirvana, une libération de cette souffrance.
Alors, est-ce que, au fur et à mesure que ces œuvres ont été justement admirées, on a parlé des très belles œuvres qui avaient été aussi acquises au XIXe siècle par Émile Guimet, est-ce que l'art a pris lui aussi une place un peu sacrée dans l'histoire du bouddhisme ? Est-ce que la tendance s'est inversée, en tout cas auto-alimentée, Antoine Gournay ?
Oui, et c'est ce qui est en quelque sorte paradoxal, puisque pour une doctrine qui met en avant la vacuité des choses, l'évanescence de tout ce qui nous entoure, le bouddhisme a paradoxalement donc donné naissance à un art tout à fait foisonnant. Si rien n'existe, si tout n'est qu'illusion, à quoi bon créer des images ? Mais on peut se dire que, aussi, conventionnellement, il peut s'agir de stratagèmes qui permettent de nous mettre sur la voie. D'où l'utilité tout de même de l'art dans certains contextes. Deuxième paradoxe, c'est celui aussi de passer, ce dont nous parlions au départ, c'est celui de passer par l'image, par la représentation du Bouddha en tant que personnage figuré.
Ça, c'est celui, le paradoxe originel, quasiment, voilà. En tout cas, dès les débuts de la représentation.
Le troisième paradoxe, c'est que, en dépit de l'unité de l'enseignement, qui est celle de principe de la doctrine, cette production artistique a donné lieu à une diversité stylistique qui est tout à fait étonnante.
Alors Catherine Raymond, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les différentes écoles du bouddhisme et les différentes écoles artistiques de représentation de Bouddha ?
C'est un champ immense entre les différents pays et à l'intérieur de chacun des pays qui dit bouddhiste actuellement, nous avons différentes écoles et différentes écoles d'interprétation en fonction des mouvances et en fonction effectivement des courants qui agissaient entre eux, vu les frontières mouvantes en Asie du Sud-Est, du Cambodge, du Vietnam, du Laos, de la Thaïlande, qui a effectivement eu différents royaumes, et de la Birmanie. Tous ces pays en Inde et au Tibet, et tout ça, effectivement, bougeait et actuellement, les styles changeaient en fonction. Vous évoquiez la possibilité, effectivement, d'avoir différentes tendances en fonction des périodes. Effectivement, certains ont préféré représenter le Bouddha assis en méditation, ce qui est le cas du Sri Lanka. Et en revanche, en Asie du Sud-Est, le Bouddha prenant la terre à témoin, c'est-à-dire assis avec la main qui touche le sol et appelle cette divinité de la terre pour témoigner de toutes les actions, les bonnes actions du passé, est beaucoup plus représenté en Asie du Sud-Est qu'au Sri Lanka et au Japon et bien sûr en Chine.
Alors là, ce sont quand même des représentations, même si elles varient selon les époques, qui restent relativement classiques, même classiques revisitées, mais classiques quand même. Il y a aussi la pop culture qui s'est emparée du bouddhisme, y compris dans l'art plastique, Antoine Gournay.
Oui, mais tout au long de son existence et de son développement, le bouddhisme a non seulement trouvé des terres d'élection dans les différents pays où il s'est installé, et ce sont tous ces apports locaux aussi qui ont enrichi la tradition artistique. Donc, sans parler donc des développements nécessairement les plus récents, il y a des siècles, par exemple, que on peut penser aux fameux jardins qui accompagnent les temples japonais de l'école zen. Voilà un type de production plastique, donc qui permet d'aménager des espaces particuliers qui sont liés à une certaine manière d'envisager la doctrine bouddhique. Et donc, ce qui est très important, c'est que d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre et d'une école à l'autre surtout, on a chaque fois mis l'accent sur des aspects différents de la doctrine, ce qui a donné lieu donc à une très grande diversité artistique.
Et des 150 œuvres que l'on peut voir dans cette exposition, hein, qui représentent aussi cette diversité de datation, de provenance et aussi la manière dont le Bouddha a été représenté selon la culture artistique locale.
Oui, alors ça, c'était un des aspects auxquels on tenait, parce que en tant que musée d'art, voilà, nous voulons aussi expliquer des phénomènes plastiques, des évolutions, des transformations. Et toute la dernière partie de l'exposition, une fois qu'on a raconté cette vie du Bouddha, qu'il est mort, que ses reliques ont été enchâssées dans les stupas et qu'ensuite elles ont donné lieu à ces cultes très très développés dans toute l'Asie, eh bien, nous concluons avec une galerie de Bouddha, qui nous conduit du 1er siècle de notre ère jusqu'au 19e, dans laquelle nous essayons de montrer comment la représentation même du Bouddha, qui est né en Inde du Nord, s'est transformée avec des spécificités, avec des points communs parfois, dans tous les pays d'Asie, jusqu'en Extrême-Orient.
Alors pour le reste, il faudra aller directement au musée Guimet pour aller voir Bouddha, la légende dorée, exposition qui tient place jusqu'au 4 novembre prochain. Arc-en-ciel qu'on entend, le duo français de DJ Electro, Polo et Pan, avec leur titre sorti en 2018. Ils seront en concert le 4 août au festival Erzeparanza à Floreffe en Belgique et le 9 août au festival Les Plages électroniques de Cannes. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité la poétesse, romancière et philosophe Tanella Boni. Tout départ est aussi un retour. C'est ainsi que commence le poème. Tu pars avec tes rêves, tu pars avec ta vie, tes souvenirs, comme un dromadaire au pas lent. Tanella Boni écrit l'exil d'abord en poésie, la poésie toujours première, et puis en prose dans Habiter, l'ouvrage dont elle fera la lecture au banquet du livre d'été de la Grâce dimanche. Tanella Boni est aujourd'hui parmi nous pour le portrait de la Grande Table d'été. Bonjour Tanella Boni.
Bonjour.
Alors vous êtes venue à la fois un livre de poésie à la main et un autre, Habité, que l'on qualifierait d'essai peut-être ?
Oui, c'est à la fois un récit et un essai, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne partie récit, parce que je parle de mon propre parcours. Comme vous le savez, on ne peut pas parler du verbe habiter sans sans parler de la partie vécue de ce que c'est que habiter. Mais je dirais que même s'il y a de la poésie et un essai, la poésie, elle est toujours première en ce qui me concerne. Je veux dire que partout, que ce soit dans mes romans, que ce soit dans d'autres genres, la poésie, elle est fondamentale en ce qui me concerne.
Alors elle est fondamentale pourquoi ? Parce que habiter, c'est d'abord habiter sa langue ?
Habiter, c'est habiter sa langue, c'est habiter son corps, c'est habiter le monde, c'est aussi habiter la terre, c'est c'est réfléchir aussi à nos savoirs, c'est réfléchir à nos manières d'être. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a besoin vraiment de réflexion. On ne peut pas vivre les yeux fermés. Comme je le dis dans ce livre, nous avons affaire à un problème précis d'habitation et du monde et du pays où nous sommes. Et aussi, c'est même pour cette raison-là que je pars de moi-même. Et à la fin, je parle aussi de la migration. Je parle en particulier de la Côte d'Ivoire, de différentes manières d'ailleurs, parce que je parle de la ville d'Abidjan, mais pas que. Je parle d'un village où a vécu...
Votre grand-mère ?
Ma grand-mère, mais pas que. Je parle aussi du nord de la Côte d'Ivoire, parce que moi-même, j'y ai vécu quelques années. Donc, vous voyez que quand on dit « habiter », c'est à la fois nos pratiques, c'est à la fois nos savoirs, c'est nos réflexions, c'est aussi, j'espère que vous l'avez remarqué, à la fois nos manières d'être et même de consommer, parce que pour moi, c'est très important. Et aussi de protéger la nature. Pour
l'écologie moi, ça, est très présente hein, dans votre réflexion.
Ça ne me quitte jamais, ça ne me quitte pas.
Il y a cette intrication qui existe aussi dans la poésie entre la nature et l'habitat. Justement, les éléments sont très présents aussi dans vos textes et dans votre écriture, Tanella Boni, et dans ce texte Habité.
Oui, parce que en tant que femme, j'habite d'abord mon corps, j'habite ma vie, j'habite mes relations, j'habite la nature. C'est ça, pour moi, c'est fondamental. Et quel que soit le genre littéraire auquel j'ai affaire, même en philosophie, je dirais que la nature ne me quitte pas. La nature qui n'est jamais, elle n'est jamais la même, comme on le sait. Elle n'est jamais la même. Elle change constamment. Mais je me dis qu'il faut, parce qu'elle change justement, il faut pouvoir la protéger. Parce que l'humain ne peut pas vivre sans la nature. Et je précise bien que ce que j'appelle ici nature, évidemment, ce sont les plantes, c'est le sol, c'est l'eau, c'est ce que les anciens Grecs appelaient par exemple les quatre éléments. C'est ça, c'est de cela, c'est avec cela que nous vivons. Et c'est cela que nous devons protéger aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'en parle et en poésie. Et aussi dans mon essai.
Alors dans cet essai Habité, on voit qu'il y a à la fois un certain nombre de recherches que vous avez faites justement sur les travaux scientifiques, qu'ils soient en sciences humaines ou en sciences tout court d'ailleurs, sur les questions écologiques notamment. Et il y a aussi ce travail sur la langue, puisque Habité, c'est avant tout un travail de définition aussi.
Oui, c'est aussi ça. C'est un verbe, mais pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure. De quoi habiter est-il le nom? C'est la question en fait que je me suis posée. Habiter, c'est avoir un toit. Habiter, c'est être capable d'être mobile. Parce que quand on vit, pour moi, la vie, c'est d'abord le mouvement. Je sais que je le dis quelque part. C'est d'abord être en mouvement. On ne peut pas vivre et être fixé quelque part. C'est pour cela que la question de la migration, elle rejoint très vite, dans mon essai, en tout cas, celle de l'habitation.
Alors, dans votre essai, mais ça fait partie de vos thématiques fondamentales, la question de la migration, vous l'aviez aussi traitée en poésie.
Bien sûr.
Dans ce recueil, Là où il fait si clair en moi. Est-ce que vous voulez nous en lire un extrait?
Oui, je vais... Je prends
ce que vous souhaitez prendre.
Voilà.
Sur cette question-là, de l'exil.
Sur la question de... Je dois quand même dire que pour moi, migration et exil,
c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait pareil parce que, je l'ai dit et je l'ai souvent répété, le mot exil, j'aime pas beaucoup. Mais sur la migration, il me semble que je travaille depuis très 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 longtemps.
Pourquoi vous aimez pas l'exil ? Est-ce que l'exil c'est un terme trop connoté, peut-être à connotation aussi ancienne, religieuse ?
Ce n'est pas cela. Je pense qu'on peut être enfermé chez soi et être justement exilé dans son propre pays, dans sa propre langue, dans le savoir qu'on nous a inculqué. Ça veut dire qu'on est là, on est quelque part enfermé, on est prisonnier, on ne peut pas bouger, on ne se meut pas, justement. Et c'est pas que le fait de quitter son pays pour aller ailleurs, c'est pas à ce sujet-là qu'on parle, justement, d'exil.
Donc c'est l'espace mental aussi, l'espace intellectuel, le champ ?
C'est l'espace intellectuel, c'est le champ des savoirs, des pratiques, etc. Donc pour moi, le mot exil, c'est pas tout à fait le mot migration. Mais comme vous avez remarqué, dans habiter, j'ai beaucoup plus insisté sur ce que pourrait être, à mon avis, là où les migrations.
Alors, puisqu'on parle de migration, quelle poésie vous avez décidé de nous lire ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Tanné Laboni.
Page 59.
Page 59.
Comme un crabe exilé en haute mer, invisible aux yeux du monde incertain, la révolte posée en bandoulière à l'épaule gauche, partir, quitter ces lieux, sans espoir de retour, croire en la vie au péril de sa peau en lambeaux. Un crustacé respire jusqu'à l'approche du feu, l'air le porte aux confins de ses rêves en éveil. Jusqu'à la prochaine terre où il sait qu'il ne prendra jamais racine, parce que la mort se rapproche ici ou là-bas.
C'est un extrait de « Autant on emporte les rêves ».
Oui.
Du poème « Autant on emporte les rêves ». Merci de nous avoir lu cet extrait. Alors pourquoi celui-ci ?
Non, je crois que je l'ai lu tout à fait par hasard, mais c'est un extrait qui me plaît bien. Si vous souhaitez, je pourrais en lire encore un autre.
Tanné Laboni, quelle est la différence entre parler de migration dans un texte poétique et en parler dans un essai ou en prose ? Est-ce que ça change quelque chose à la pensée ?
Je pense que ça change quelque chose. Vous savez, pour moi, la poésie, c'est comme une respiration. Ce sont des flashs qui me viennent. C'est une rivière, par exemple, qui coule en moi. J'ai coutume de dire que pour moi, la poésie, c'est la fête des mots, parce qu'il y a du rythme là-dedans. Il y a des mots que je n'ai pas l'habitude d'employer et qui se retrouvent ensemble avec d'autres mots, avec d'autres verbes. Vous voyez ? En réalité, la poésie, on ne la maîtrise pas tout à fait. Je veux dire que on ne met pas forcément des idées dans la poésie. Il y a des images, il y a des rythmes. Il y a des sons. Il y a beaucoup d'autres choses qui passent en poésie. Il y a de la danse, il y a du rythme, encore une fois, en poésie. Ce qu'il n'y a pas forcément, justement, dans un essai. Parce que dans un essai, justement, j'essaie de réfléchir. Je me pose des questions. Qu'est-ce que, tout à l'heure, j'ai dit, mais de quoi habiter a-t-il le nom ? C'est une question. Il faut que je réfléchisse dans un essai, mais dans de la poésie, je dois d'abord sentir. Je peux partir d'une émotion, d'une image, je sais pas. Je vois par exemple, là tout à l'heure, j'ai parlé d'un crabe. Le crabe, c'est quoi ? Ça n'a rien à voir peut-être avec la migration. Mais pour moi, ce jour-là, quand j'écrivais ce poème, j'ai pensé au crabe parce que le crabe est dans l'eau et on sait que justement, aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, les migrants passent par l'eau parce que l'eau, c'est un élément essentiel.
Alors l'image poétique, elle contient finalement tout le reste, en tout cas en puissance ?
L'image, elle contient tout le reste. Ce n'est pas de la réflexion. Comme j'ai dit, c'est un flash, c'est une fulgurance. L'image poétique, je pense qu'elle rassemble. Elle rassemble l'essentiel. Et elle essaie de dire l'essentiel. En peu de mots.
Est-ce qu'à vous, elle vous apporte aussi des révélations, même en termes d'idées? Je veux dire, une fois que la poésie a été accouchée et qu'elle est sur le papier, ces images-là, est-ce qu'elles nourrissent aussi votre réflexion théorique dans un deuxième temps, Tanella Boni?
Dans un deuxième temps, oui, c'est même pour cette raison que je lis aussi les autres. Je veux dire, je fais de la critique et de la critique en poésie, parce que c'est vrai que quand je lis des poètes, moi, je les lis peut-être avec des yeux de, aussi avec des yeux de philosophe. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas moi qui ai écrit ces textes poétiques. Donc, c'est pour moi un support à la réflexion, y compris à la réflexion philosophique. C'est là où ça devient intéressant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je peux pas faire la même chose.
Dans l'autre sens.
Voilà. En ce qui concerne ma propre poésie, je ne peux pas réfléchir à partir de ma propre poésie.
Donc c'est les autres poèmes qui vous inspirent votre réflexion. Je vous propose de prendre la deuxième feuille de papier qui est à côté de vous pour qu'on lise un extrait de Habiter, puisque finalement vous avez dit que la poésie était première, mais y compris dans votre essai Habiter, il y a un récit intime, un récit personnel qui intervient et qui permet aussi d'incarner la réflexion théorique. Alors vous parlez d'habiter seule, de ces femmes qui habitaient seules dans le village de votre grand-mère et que l'on prenait pour des sorcières, par exemple, Tanella Boni.
Oui, c'est vrai, je parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments, je dirais, tout à fait personnels de ma vie. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de récits. Alors, aujourd'hui, quand je pense à mon enfance, je pense à ces moments où j'allais en vacances tout à fait dans le centre de la Côte d'Ivoire et je rencontrais ces femmes qui allaient puiser l'eau le matin, ces femmes qui parlaient entre elles, ces femmes qui avaient une manière particulière de faire la cuisine, ainsi de suite. Ces femmes qui n'étaient jamais assises, les bras croisés, parce que je les voyais travailler tout le temps. Et puis aussi, il y a certaines qui étaient ensemble, et puis d'autres qui étaient isolées. C'est pour cette raison-là que ça m'avait frappé. Il y en a une qu'on traitait de sorcière, et qui habitait une case de l'autre côté de la grande voie. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais très souvent en Côte d'Ivoire, les villages sont traversés par une voie centrale. Et puis, d'un côté, il y a, je dirais, peut-être les bonnes personnes ou les bonnes gens. Et puis, de l'autre côté, il y a... ça veut dire que...
La frontière, c'est une frontière.
Il y a la frontière. C'est l'idée aussi de la frontière. Parce que la frontière, elle n'existe pas que dans les villes ou qu'entre un État et un autre État. Mais je suis en train de dire que même dans un village, l'idée de la frontière, elle existe. Voilà pourquoi ça m'avait frappé au moment même où je ne réfléchissais pas encore. Donc, il y avait des femmes qui étaient à l'écart des autres femmes parce que on disait que elles étaient autres, c'est ça.
L'image de la sorcière, c'était ça?
Elles étaient autres, elles étaient étranges, donc... On les mettait à l'écart. Elles vivaient à l'écart des autres femmes.
Tanella Boni, la réflexion sur les femmes, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à la fois dans votre prose et dans votre poésie. Dans cet essai Habiter, vous montrez que l'idée d'habiter, c'est aussi une idée très sociale.
Bien sûr.
C'est aussi avec qui on habite.
C'est avec qui on habite. Ça commence par le bonjour, le bonsoir. Hein. Habiter, c'est d'abord cela. C'est la courtoisie, c'est la convivialité, c'est la manière aussi d'être ensemble. Comment on vit ensemble? Parce que la manière dont on vit ensemble, c'est aussi cela habiter. C'est ça. Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce que on peut s'asseoir autour d'une table ensemble? Parce que si on est capable de s'asseoir autour d'une table ensemble, ça veut dire qu'on est capable de parler ensemble. Parler ensemble, c'est habiter. Manger ensemble, c'est aussi habiter. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas dire que, justement, habiter, c'est simplement avoir un toit. j'ai dit quelque part dans cet essai que sous un toit, il y a d'abord de l'eau. Important, très important. Il y a de l'eau avant toute forme de nourriture.
Alors derrière la question sociale se cache la question économique ?
Évidemment. Parce que quand je dis il y a de l'eau, l'eau, il faut trouver l'eau. Et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on sait que dans de nombreux pays africains, évidemment, l'eau s'achète. Les plus pauvres, quand ils n'ont rien, peut-être qu'ils n'ont pas de l'eau potable. C'est d'abord ça. Donc, c'est vraiment très important. La pauvreté commence d'abord par le manque d'eau. C'est essentiel.
Alors, il y a un déterminisme aussi que vous creusez, un déterminisme qui n'est peut-être pas définitif, mais qui est en tout cas une sorte de point de départ. Il y a aussi cette idée de circulation. On parlait tout à l'heure de la frontière.
Oui.
On parle aussi de circulation à l'intérieur aussi d'une même société. Vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les microbes. Qu'est-ce que c'est les microbes, Vanella Boni?
Expliquez-nous. C'est un mot, je dirais, assez l'usage donc de ce mot. Est assez récent dans la ville
d'Abidjan,
en Côte d'Ivoire. Assez récent parce que je me suis posé la question de savoir si finalement les microbes ne sont pas, c'est pas un phénomène qui est arrivé en même temps que la crise et la guerre que la Côte d'Ivoire a connue il y a quelques années.
Il faut nous expliquer ce que c'est les microbes, c'est des enfants?
Ce sont des enfants, j'ai dit, comme je l'ai dit dans le texte, ce sont des laissés pour compte. Ce sont des laissés pour compte de quoi? De l'école, de la famille, ainsi de suite. Ce sont des, ailleurs, on appellerait ça des gangs. Mais ici, je me pose la question de savoir si c'est réellement cela. C'est vrai qu'ils sont bien organisés. Certains diraient, ce sont des petits voyous. Mais moi, je ne m'arrête pas à ce niveau-là. Je vais beaucoup plus loin. Je me dis que ce sont des enfants qui peuvent être justement intégrés complètement dans la société, mais pourvu qu'on les voit. Et vous savez, le mot microbe, c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Et pour moi, c'est vraiment significatif. Pourquoi s'appellent-ils microbes? C'est parce que la société n'a pas envie de les voir tels qu'ils sont.
Alors la violence, vous posez cette question d'ailleurs, est-ce que la violence n'est pas un moyen, un pis-aller en tout cas, pour d'habiter la ville?
Oui, non mais
en
c'est...
En tout cas d'y être vu.
C'est ça. Parce que cette violence-là, justement, elle a tendance à mettre à l'écart. Il me semble qu'il n'y a pas pire violence que de rendre des humains invisibles. Ces jeunes-là, ce sont d'abord des humains. Moi, je pars de ce principe. Ce sont d'abord des humains. Les humains sont faits pour être vus, sont faits pour être entendus, écoutés, avant toute autre chose, avant même d'être éduqués. Parce que être entendu aussi, ça fait partie de l'éducation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les microbes, ce sont des enfants qui ne sont pas reconnus. Si vous n'êtes pas reconnu en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous prenez vos responsabilités. Et pour eux, prendre leurs responsabilités, c'est se donner la liberté de vivre comme ils l'entendent. C'est-à-dire comment? Avec des armes à la main. Vous voyez? Donc, voilà comment on tourne en rond dans une société gouvernée par la violence de l'invisibilité.
Ah, Tanella Boni, vous parlez d'invisibilité. Cette idée de frontière, elle revient aussi à cette idée de frontière invisible que vous avez creusée. C'est quoi pour vous les frontières invisibles?
Ben, il me semble que les frontières invisibles, il y en a partout. Hein. Il y a d'abord...
Les frontières de genre.
Il y a les frontières de genre. C'est vrai qu'entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on la voit, cette frontière? On ne la voit pas. Mais pourtant... Nous la vivons. Il suffit par exemple que quelqu'un nous parle en se disant « c'est à une femme que je suis en train de parler ». La frontière, elle est déjà là. Parce qu'il ne va pas utiliser les mêmes mots qu'il utiliserait lorsqu'il parle à une femme, à un homme plutôt, à un homme. La frontière, elle est déjà là. Il y a un exemple d'ailleurs, je sais que là, quand je l'ai cité, j'ai cité cet exemple, ça m'a beaucoup amusé. Je me suis rappelé que quand j'étais adolescente, j'avais fait un voyage. À l'époque, ça s'appelait la Haute Volta. Aujourd'hui, ça s'appelle Burkina Faso. Avec une amie, nous arrivons donc à Ouagadougou. Et dès que nous arrivons, on nous repère tout de suite. Par quoi ? Par l'accent. C'est une frontière aussi invisible. Je veux dire, vous prenez par exemple quelqu'un du Burkina Faso, quelqu'un de Côte d'Ivoire, vous les mettez côte à côte, vous les regardez, peut-être que vous n'allez pas faire tout de suite la différence entre quelqu'un qui vient de tel pays, quelqu'un qui vient de tel autre pays d'Afrique et de la même région. Mais lorsqu'ils vont parler, par exemple le français, peut-être que vous allez entendre quelque chose. C'est aussi une frontière invisible.
Alors, dans les frontières invisibles, il y a aussi celle d'habiter, par exemple, le champ littéraire lorsque l'on est une femme.
Évidemment.
Daniela Boni.
Évidemment. Et c'est vrai que j'en parle très souvent lorsqu'on est une femme. C'est vrai qu'on n'habite pas le champ littéraire de la même façon que quand on est un homme. Et je dirais pire, le champ de la philosophie est, de ce point de vue-là, de plus en plus, je dirais même pas de plus en plus, a toujours été très violent s'agissant des femmes. Parce que quand on parle philosophie, on voit d'abord des hommes. Et pour que les femmes puissent justement participer pleinement à ce champ de la philosophie, il faut qu'elles se battent. Voyez ?
Pour l'habiter.
Pour l'habiter, pour l'habiter. Donc, on n'entre pas en philosophie à armes égales. De la même manière qu'on n'entre pas en littérature à armes égales. Je vais encore même plus loin. Vous savez, nous sommes en francophonie, mais vous savez que les frontières invisibles, elles passent aussi à l'intérieur de ce qu'on appelle la francophonie. Nous utilisons tous la langue française, mais lorsque nous écrivons, on sait bien qu'il y a quelques grands partages à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ceux qui publient par exemple en Suisse ne seront pas lus. Ils écrivent en français.
Ça veut dire être caractérisé littérature francophone. C'est à ça que vous faites allusion,
oui,
Tanella Boni, par les éditeurs. La littérature française d'un côté, francophone de l'autre.
Évidemment, moi j'ai souvent parlé de ce fameux ghetto dans lequel on jette les tous ceux par exemple qui vont venir de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, etc. On les jette quelque part. Vous allez chez un éditeur, il va vous dire, mais bon, mais vous avez parlé, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou d'une certaine région de l'Afrique. Immédiatement, on va d'abord vous mettre quelque part dans quelque chose genre encre noire ou lettre africaine, ou avant même de voir si ce que vous dites, ça peut concerner le monde entier. Ça aussi, c'est une autre bataille.
Ah, écoutez, on entend quelques notes de Myriam Makeba. Peut-être quelques mots, je crois que vous l'aimez beaucoup.
Oui.
Chanteuse et militante sud-africaine.
Oui, parce que j'ai écrit un livre sur sa vie, un livre pour les jeunes, pour les enfants.
Merci beaucoup Tanella Boni d'être venue aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'est Habiter, publié aux éditions Muséo. Il y a aussi le recueil de poésie Là où il fait si clair en moi, aux éditions Bruno Doucet. Et vous serez à partir de demain invité du banquet du livre d'été à la Grasse où vous ferez une lecture dimanche. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée au mélodrame avant de faire le portrait de l'artiste Abraham Poincheval. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Lou Le Joli, Lou Quevaux-Villiers et Julien Rosa. Réalisation Alexandra Longuet, technique Nasser Moussaoui. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécouté en podcast sur le site franceculture.fr.